on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission L'invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir Florence Roche pour parler de son dernier livre, son dernier roman, Le Pâques de Nouara, aux presses de la Cité. Eh bien, on va retrouver Florence dans quelques instants. Voilà, bien aujourd'hui, dans l'invité du jeudi, nous allons accueillir Florence Roche pour son dernier roman, Le Pacte de Nouara, aux presses de la Cité. Florence, bonjour.
Bonjour.
Alors, un nouveau roman, je ne sais plus à combien tu en es, mais tu en as fait énormément. Hein.
Oui, c'est à peu près un par an.
Non, c'est le combien, celui-là on...
Donc, quand... ça doit être le 25e,
quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà.
C'est ça.
Alors, on va parler là. Tu nous entraînes dans une nouvelle aventure. Hein. Dans les années 70, la mort du mari d'Élodie Tissier, qui est issue d'une lignée de meuniers auvergnats. On va parler de moulin. Hein, puis c'est... Alors, après, je te parlerai de ça. A vu son monde vaciller. Un nouvel amour inespéré et un enfant, le destin encore va se jouer d'elle. Donc, il y a l'abbé Leroy là, qui rentre au milieu de ce roman, qui est une figure bienveillante du Moulin Nouara, où il dirige des colonies de vacances. Élodie, fidèle au pacte conclu avec le père de sa protégée, des années plus tôt, redoutant les manœuvres des frères Loubert, qui refusent un descendant ne portant pas leur nom, le prêtre élabore dans le secret de sa conscience un plan audacieux. Voilà, c'est ce que tu vas nous parler. Alors, le Pâques de Nouara, est-ce que tu as mis ce nom? Parce que tout près de chez nous, à Ambert, il y a le Moulin de Nouara.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'intrigue là, dont tu viens un petit peu de faire le résumé, se passe à Ambert, et plus exactement au moulin de Nouara, qui est juste au-dessus du moulin de Richard Dubas, qui fait encore, tu sais, du papier. Il fait encore la démonstration, voilà, du papier fabriqué. Et en fait, juste au-dessus, il y a un ancien moulin qui a été racheté par Xavier Omerin, le grand directeur de l'entreprise du même nom, et il en a fait un complexe hôtelier culturel, touristique absolument magnifique, mais vraiment très très chouette. Et en fait, c'est en allant passer une nuit dans ce moulin de Nouara, donc, qui a été vraiment refait de façon magnifique, on a le sentiment d'être encore dans le cœur d'un moulin. Mais tout est très moderne, très vraiment, c'est très beau. Et je me suis dit, il faut que je fasse une intrigue là. D'autant plus que je commençais à tourner un petit peu à Ambert parce que mon grand-père maternel a grandi à Ambert jusqu'à ses 18 ans. Sa mère tenait l'hôtel de la gare. Donc je me suis dit, prochain bouquin, entre ce moulin de Nouara qui me plaît énormément et puis... le fait que, voilà, je cherche un peu des renseignements sur mon grand-père et son enfance. Voilà, je suis allée plusieurs fois à Ambert. Et dans le nouveau moulin de Nouara, dont le président est Xavier Omerin, il y a plein de photos du moulin autrefois. Et en fait, je me suis rendu compte que autrefois, ce moulin, entre 1960, si tu veux, et 1990, c'était une colonie de vacances.
D'accord.
Tenu par un abbé. Et là, tu penses bien que j'ai trouvé une
matière. Tu as trouvé matière à faire ton roman.
J'ai trouvé matière parce que, le lieu, en fait, c'est un lieu de vie. Ça a d'abord été un moulin à farine, après ça a été un moulin à perles, après ça a été un moulin à papier, après ça a été de nouveau un moulin à farine, enfin, puis après c'est tombé en décrépitude. Et l'abbé, qui s'appelle en réalité l'abbé Duval, hein. Donc il est décédé aujourd'hui, mais c'était un homme très, très bon, très charitable, qui venait de Rouen. Et il est tombé sur ce moulin un peu en décrépitude, il l'a acheté et il y a organisé des colonies pendant plus de 30 ans pour les enfants un peu déshérités, les enfants un peu des rues, des ouvriers de la ville de Rouen.
D'accord, donc voilà.
Voilà.
Alors oui, c'est vrai que pour parler un petit peu de ce moulin de Noirat, qui fait beaucoup de choses, hein, qui accueille des spectacles, qui
ouais.
C'est vraiment un lieu de culture, hein, maintenant on peut dire que c'est un lieu culturel. Hein. On en parle beaucoup
vraiment.
Dans la région, hein, c'est vrai. Hein, donc voilà. Donc
ah ouais, mais l'auditorium est superbe.
Ouais. On est tout près de chez nous. Mais alors, tu nous emmènes à Rouen avec Élodie qui nous dit va se reconstruire là-bas. Alors pourquoi elle va à Rouen en fait, elle?
Alors c'est compliqué sans spolier l'histoire, mais en gros, l'abbé, que j'ai appelé l'abbé Leroy, mais en réalité il s'appelait l'abbé Duval, bon peu importe, l'abbé Leroy, en fait il est assez proche du père d'Élodie, Tixier, qui était un industriel, et puis c'est à Tixier qu'il avait acheté les ruines du moulin, mais pour 4 sous, quoi. Et en échange, le père d'Élodie, donc Tixier, demande à l'abbé de prendre soin de sa fille, et surtout de protéger ses descendants, parce que la famille Tixier a depuis des lustres une famille ennemie, les Loubert. Et Monsieur Tixier, il sent qu'en laissant son Élodie toute seule parce qu'il meurt peu de temps après, les Loubert vont peut-être lui faire du mal. Donc c'est en fait pour qu'elle soit protégée que Élodie va aller s'établir, non pas à Amber, mais elle va partir à Rouen. Parce que l'abbé Leroy a toute sa famille à Rouen. Et c'est pour ça qu'il emmenait des gamins à Amber, mais des gamins que de Rouen, en fait.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce différent, je veux dire, entre la famille Loubert et la famille Tixier? Alors, on sait que dans les campagnes, à l'époque, quand ça va pas, ça va pas.
Voilà, c'est un truc comme ça, si tu veux. En gros, il y avait un droit de passage entre une propriété des Loubert et des Tixier. Alors et puis ils partageaient aussi, parce que tu sais, à Amber, les moulins ils étaient tous en cascade, et en fait, c'est en fait des ruisseaux, des torrents qui abreuvaient les moulins. Et les Loubert et les Tixier avaient un moulin à eau, donc qui était en fait abreuvé, qui était en mouvement grâce au même torrent. Et de fait, les Tixier avaient plus de débit, et puis couper un petit peu, si tu veux, de courant au Loubert, parce que leur moulin était plus en amont. Donc il y avait ça qui les faisait se rivaliser un petit peu. Et puis du coup, les Loubert, pour se venger, eh ben, ils bloquaient souvent le droit de passage aux Tixier. Donc c'est un truc qui remonte au XVIIIe siècle. Mon bouquin, il se passe bien au XXe siècle, mais c'est des haines qui ressurgissent. Et en fait, dans un premier temps, Tixier, il va marier Élodie à un fils Loubert, en pensant que comme ça, eh ben, la haine va s'arrêter. Et c'est un mariage qui marche plutôt bien, sauf que Élodie va se retrouver veuve assez vite. Donc elle reste avec les Loubert, hein, voilà, ça se passe plutôt bien, jusqu'à ce qu'elle retrouve un amour d'enfance et qu'elle tombe enceinte. Et à partir de là, l'abbé veut vraiment la mettre à l'abri, parce que son amour d'enfance disparaît. Voilà, il la plante. Elle se retrouve enceinte et l'abbé la conduit à Rouen et lui fait refaire sa vie à Rouen pour que les Loubert ne s'en prennent pas à l'enfant qu'elle porte.
Oui, parce qu'en fait, eux, ils n'acceptent pas que l'enfant porte le nom de Loubert.
C'est ça.
Et alors, c'est pour
ça. C'est ça, en fait.
Ouais. Alors, c'est là que l'intrigue va commencer, enfin, va continuer. Parce que Élodie, elle a un esprit de vengeance, hein, comme souvent dans ses histoires. Alors une guerre, hein, implacable contre les Loubert et leurs héritiers. Mais à force d'avancer là-dedans, elle va arriver au secret que détenait en fait l'abbé Leroy.
C'est c'est ça. C'est-à-dire que l'abbé, le roi, pour vraiment être sûr que l'enfant d'Élodie survivrait et puis poursuivrait la lignée, eh ben, il a fait quelque chose que, bien sûr, on va découvrir qu'à la fin du roman et puis dont il ne se vante pas. Mais en tout cas, effectivement, pour vraiment tenir son secret, il est allé très loin pour protéger le bébé d'Élodie, qui sera une fille, Salomé. Voilà. Et en fait, là où Élodie va commencer un petit peu à se poser des questions et tout, c'est que l'abbé donc organise des colonies de vacances au moulin de Nouara. Et puis, 14 ans après qu'Élodie ait quitté Ambert, sa fille a 14 ans, ouais, il y a des petits gamins dans la colonie. Alors, c'est trois gamins que moi j'adore comme personnage. Il y en a un qui s'appelle Tony, enfin voilà. Ils aiment bien aller un peu là où l'abbé leur interdit d'aller et tout ça. Et un jour, ils rentrent dans une vieille ferme complètement abandonnée et ils tombent en fait sur un cadavre. Et c'est à partir de ce moment-là que... alors, ils vont pas trop s'en vanter, hein, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'y être et tout ça. Mais il y a un des petits gamins qui, lorsqu'il va rentrer à Rouen, va aller le dire à Élodie. Et à partir de là, eh ben, il y a toute, bien sûr, une recherche que Élodie met en marche pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette ferme, qui était une vieille ferme des Loubert.
D'accord.
Donc, alors, on voit... l'intrigue, elle a un peu posé... par là, si tu veux, c'est qu'il y a trois gamins qui tombent sur un cadavre, quoi.
Oui, ouais, c'est vrai que, oui, à l'époque, les colonistes étaient assez sévères, quand même, s'ils avaient fait... ils étaient partis comme ça, sans rien dire, qu'ils tombent là-dessus, s'ils avaient été racontés leur histoire, je pense que ça serait mal passé. Donc, ils gardent un peu le secret, mais enfin, ce secret, ils le dévoilent à Élodie, Élodie qui en parle à sa mère, bien sûr, et c'est à partir de là que sa mère va faire encore des recherches plus profondes.
Oui, puis elle va repartir sur Ambert, et puis surtout, elle va s'acharner pour ruiner complètement les Loubert, quoi. C'est-à-dire qu'elle, à Rouen, elle a réussi de nouveau à créer une belle boîte. Elle est entrepreneuse, elle est comme était son père, quoi. Bon. Et en fait, elle s'acharne vraiment à ruiner les Loubert, à racheter leur villa. Enfin, elle est plus bas que terre. Mais on comprend pourquoi, à la fin.
Oui, bah bien sûr.
Tout à la fin du bouquin.
Oui, bah c'est sûr. Alors, oui, vas-y.
L'originalité, c'est que l'ambiance colonie de vacances, travailler sur les adolescents et tout ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que je suis prof et tout ça. Mais alors, ce qu'il y a de très, très, très amusant, c'est que Michel Bussy, donc l'écrivain qui vend je ne sais pas combien de polars par an en France et qui travaille pour la même maison d'édition que moi, ben un jour comme ça on discutait et je lui dis tiens ben, je suis en train d'écrire sur le moulin de sur la colonie de Nouara. Il me dit mais moi en fait Flo j'ai été pendant 20 ans dans cette colonie, dans ce lieu avec l'abbé Duval et j'adorais. Et donc, il m'a beaucoup expliqué comment se passaient les colonies, la discipline. Pour lui, c'était vraiment quelque chose de magique, quoi. C'était, après, il est devenu même moniteur, directeur. Donc, c'est pour ça qu'après, Michel Bussy m'a proposé de faire quand je lui ai demandé une préface, il m'a dit, mais ça va de soi, quoi. Parce que le fait que je fasse revivre à travers mon bouquin, c'est... ces années de colonie, il a trouvé que c'était chouette de redonner vie quoi, à cet endroit qui n'était pas du tout aux normes à l'époque. Enfin, c'était un truc de dingue. Quoi. Aujourd'hui, ça ne fonctionnerait plus, quoi, si tu veux.
Oui, il y en avait beaucoup comme ça, hein, des colonies qui n'étaient pas aux normes. Ce n'était pas la seule, vraisemblablement. Alors, c'est vrai que les colonies, ça s'est un peu perdu hein, maintenant, à notre époque. Il y en a moins. Ouais. Mais moi, j'ai eu la chance aussi d'y aller un petit peu. C'était pas mal, hein, parce que ça apprenait à vivre déjà en société, ça apprenait un peu de discipline, parce qu'à un âge, on n'en avait pas trop, et puis c'était des bons moments, quoi, je veux dire, on rencontrait des fois des copains qu'on connaissait pas, hein, parce qu'on pouvait partir comme ça dans des colonies où on rencontrait des gens, et c'était toujours très sympa, ça nous... faisait partir un petit peu de chez nous aussi, c'était pas mal, on était plus dans le cocon familial, hein. Il fallait se comporter autrement.
Tout à fait, ouais, tout tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus comme ça parce que les gamins, aujourd'hui, ils veulent des loisirs. Hein, ils veulent partir pour faire du vélo, de la pince à voile, voilà. Et puis, les parents sont beaucoup plus... on part en vacances ensemble, en fait. Les mentalités ont changé aussi. Aujourd'hui, on a plus de congés, il y a tout ça, quoi.
Oui, parce que dans le temps, les parents, alors souvent même les fils d'agriculteurs, c'était encore pire, puisque là, on partait jamais en vacances. Donc, eux, ils avaient cette possibilité qu'on les envoie en colonie. Il y en avait pas mal. Oui. C'est vrai qu'à un moment, c'était... il y avait les cœurs vaillants, il me semble. Je ne me rappelle plus comment on appelait ça. Oui, c'est ça. Hein. Alors, les scouts qui étaient un peu un genre. Pas des colonies, mais un petit peu quand même. Hein. Donc,
ils
faisaient des camps, oui, c'était ça. Hein. Et il y en avait beaucoup qui participaient. Donc, tout cela. Alors, c'est quand même incroyable que Michel Bussy, il se retrouve des années après avec l'idée de ton livre. À se rappeler sa jeunesse, quoi. C'est sûr que pour lui, c'est formidable.
Ouais. Mais il en parle quand même beaucoup parce que il dit que vraiment, ça l'a vraiment construit, quoi. Parce que rester en ville tout le temps. Alors lui, c'était pas sa maman. Je crois qu'elle était enseignante. Son papa, c'était une famille assez modeste. Et c'est vrai qu'il partait, un mois en Berre et il est resté très très attaché au lieu puisque il y va régulièrement. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a compté dans sa vie, quoi. Et vraiment. Hein. Je l'ai senti comme ça, moi. Il en parle de façon passionnée, quoi.
On sent que ça vient du fond du cœur. Il est originaire d'où, lui ?
De Rouen.
Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui,
Rouen.
D'accord, tout se rejoint, en fait. Ah bah oui, puisqu'il s'est retrouvé en colonie. Là, il était forcément de Rouen, hein, puisque c'était...
C'était un gamin de Rouen,
Qui allait passer... donc,
oui.
Oui, vas-y.
Oui, parce que ce qui est assez assez drôle, c'est que en fait, cette colonie du Moulin Noira, qui était tenue donc par l'abbé Duval, c'était pas des gamins d'Ambert hein, qui allaient, pas du tout. C'était vraiment des quarts de gamins de Rouen qui arrivaient. Alors au début, il y avait un quart, puis deux quarts, et puis à la fin, sept quarts chaque été. Il y a eu des années où il y avait 200 ou 300 gamins. Hein. C'était vraiment un gros truc, ça s'est vraiment développé. Mais c'était des gamins de Rouen et des environs de Rouen, pas d'Anvers.
Et non, donc c'est un dépaysement total, hein, parce que Rouen, c'est quand même une grande ville. Là, ils arrivent surtout à l'époque, si on transcrit dans l'époque, ils arrivaient à la campagne, ils connaissaient sûrement pas. Surtout que Rouen, c'est pas du tout comme chez nous, hein. Alors, ils étaient sûrement... ils ouvraient des grands yeux quand ils sont arrivés là. Hein.
Oui, mais c'est sûr. Et puis, ils ne connaissaient pas trop la montagne, la forêt, tout ça. Il n'y a pas ça en Normandie, tu vois. Donc, c'était un dépaysement complet. Mais ça leur faisait beaucoup de bien physiquement, je pense.
Et puis, pour la santé, parce qu'on est à la montagne, on respire bien. Hein. La Normandie, c'est bien. Il y a du bon fromage, il y a du bon lait. Mais il pleut souvent, quoi. Hein.
Ouais, et puis à l'époque, c'était très, très industrialisé, très...
Ah bah oui.
C'était encore les usines polluantes, quoi.
Ouais, bah c'est sûr, hein. Bah, y avait Renault, hein, particulièrement, qui avait des grosses usines là-haut. Hein, et alors, Élodie, on comprend qu'elle va tout faire, comme tu expliquais, pour déstabiliser un peu cette famille des Loubert. Et alors, on verra si à la fin du roman, elle y arrive ou elle n'y arrive pas. Mais elle a vraiment gros sur la patate, hein, si on peut le dire comme ça, parce que pour qu'elle aille à ce point essayer de les ruiner, quoi, en un mot, on peut dire ça. Hein.
Elle les ruine, ouais. Elle les ruine, ouais.
Et alors, c'est là, à la fin du livre, qu'on va voir ressurgir qui était ce cadavre, en fait.
Voilà. Et bien sûr, c'est forcément lié à l'histoire d'Élodie. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est parler du moulin à l'époque où c'était une colonie, mais après, par le biais d'Élodie qui revient à Ambert, elle rachète le moulin puisque la colonie s'arrête et elle le refait. Et ça m'a permis de décrire le moulin tel qu'il est aujourd'hui, en fait, complètement refait, lieu culturel, comme tu disais, tu vois, hyper moderne. Donc, ça permet aussi de faire revivre cette espèce de bâtiment qui était d'abord quasiment en ruine. Ensuite, pendant 30 années, colonie de vacances. Et puis, depuis les années 2000, 2010, quelque chose comme ça, un centre culturel absolument magnifique, dans un écrin de nature. Je l'ai vraiment décrit, j'ai cherché vraiment à le décrire tel qu'il était à l'heure actuelle, si tu veux.
Oui, ben c'est bien parce que.
J'ai dit que c'était Élodie, quoi.
Oui, bien sûr, c'est ça. On voit la transition, en fait. Hein. Donc, un moulin qui était sur le point de s'écrouler, elle rachète. Elle, on va dire, elle le rafistole un peu, on peut dire ça, hein, c'est pas... Mais elle, il ne tombera pas en ruine, quoi. Voilà, ça va le sauver. Et après, eh ben, il est racheté, et puis il va... Là, c'est là où tu expliques qu'il est ce qu'il est devenu, quoi, voilà. Ce qu'on connaît maintenant.
C'est ça. Oui, ouais, ouais, parce que c'est important de... d'en parler, de dire parce que en fait ça c'est aussi Xavier Omerin qui m'en a parlé, il a fait l'avant-propos aussi dans le roman, donc le propriétaire du nouveau complexe et du moulin, ils ont mis un temps infini en fait à faire les plans, à récupérer des anciennes pièces du moulin, à l'époque où c'était un moulin, à l'époque où c'était la colonie. Enfin, ça a été un chantier titanesque. Et puis voilà, pour arriver à quelque chose qui se fond complètement dans la nature et où on a quand même le sentiment, on entend l'eau du Bief, on entend, on a l'impression d'être dehors alors qu'on est dedans. Enfin, c'est vraiment réussi, hein, leur truc, hein, vraiment.
Alors, j'ai pas eu la chance, je voulais toujours y aller, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais toutes les personnes qui ont été assez impressionnées par ce qui a été fait, hein, et c'est vraiment ce que tu décris. Donc, Le Moulin de Noara, eh bien, c'est le dernier roman de Florence Roche, aux Presses de la Cité. Alors, vous voyez, là, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir, hein, quand vous aurez lu le roman, même avant, hein, si ah, vous ouais. voulez. Mais là, c'est très près de chez nous, hein. Ambert, c'est à côté de la Haute-Loire, hein, donc c'est pas très loin. Et vraiment, c'est un lieu à découvrir. Alors, il y a les deux, hein, puisqu'il y a encore le moulin qui fait du papier, hein, ça on l'a toujours. Et, on peut faire dans la même journée, on peut faire les deux.
Hein. Bien sûr, ouais, bien sûr, hein. Tout à fait. Après, le moulin de Noara, c'est plus pour aller voir un concert ou quelque chose.
Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Enfin, oui, mais ça.
On peut le y jeter un œil, mais. C'est plus oui un lieu d'événements culturels.
Oui, mais c'est ça, puisque nous, on a reçu des... Ils nous ont fait passer parfois de ce qu'ils réalisaient, ce qu'ils faisaient. C'est vrai qu'il se passe pas mal de choses quoi, au niveau culture, mais ça permet aussi de voir que bah, parfois, je vais dire qu'il y a quelque chose qui renaît de ses cendres, hein, parce que ça aurait pu être un moulin... qui soit parti comme beaucoup, hein, puisqu'on en avait beaucoup, nous, notamment sur la vallée de Lens, il y a des moulins, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y en avait une quarantaine, j'avais reçu quelqu'un qui avait écrit des bouquins sur les moulins, mais là, tout doucement, il en reste quelques-uns qui ont été restaurés, mais il y en a énormément qui ne marchent plus, hein, c'est sûr, hein, et qui ne tiennent même plus debout. Hein.
Ouais. Après, dans l'histoire d'Ambert, c'est impressionnant, justement, l'importance qu'ont eu les moulins. Tout le monde, ou presque, vivait grâce à un moulin, quoi, à la force motrice de l'eau. C'est vrai que, bon, géographiquement, ben, c'est configuré pour justement pouvoir faire tourner des roues à eau. Et il y a des gens qui faisaient des perles, d'autres qui faisaient des cordes, d'autres qui faisaient du papier. Enfin, c'est impressionnant, mais c'était pas des gens qui roulaient sur l'or, hein. Mais voilà, on avait son moulin, quoi.
Oui, oui. D'ailleurs, il y en a. Ben, nous, on en a un tout près de chez nous, hein, qui a été restauré à Saint-Juin-d'Anse, hein, le moulin d'Ancette, qui a été tout restauré, qui marche et que les gens viennent visiter. Ben, c'est des moulins qui ont été restaurés et c'est bien parce que les gens qui viennent voir, ben, on leur explique toute l'histoire, hein, de ce moulin qui remonte à des décennies, hein, voire à pratiquement des siècles, hein, parce que à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moulins. On ne dira pas que chacun avait son moulin, mais pas loin.
Hein. Oui, pas loin, non. J'exagère peut-être un petit peu, c'est vrai. Mais, ouais. Mais c'est vrai que près de Saint-Julien-Chapteuil aussi, il y a le moulin de Guérin qui a été remis en activité par un passionné. Et en fait, c'est très, très intéressant. Les enfants, ça leur plaît beaucoup, par exemple, parce que voilà, on voit vraiment les grains qui deviennent farine. Enfin, c'est assez génial. Et moi, ce qui m'a toujours surprise, c'est le bruit, par contre. C'est-à-dire que il y avait un boucan infernal, en fait, tout dans ces moulins, quoi. On ne s'entendait pas, quoi. Vraiment, enfin, celui qui a été rénové là, près de Saint-Julien-Chapteuil, c'est un moulin à grains, quoi. Oh, mais vraiment, ça fait beaucoup de bruit, quoi, franchement.
Ah bah oui, entre l'eau qui fait tourner la roue et les meules qui écrasent le grain,
Ouais.
c'est sûr que c'était pas le silence dans la campagne. Hein. Mais bon,
Non.
c'était comme ça. Hein.
Et tout à fait, ouais. Et c'est
C'était.
vrai que c'est intéressant de faire revivre des lieux comme ça, parce que là, ils expliquent aussi, par exemple, qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de forêt comme aujourd'hui autour de ces moulins. Il n'y avait pas de forêt au 18e, 17e siècle et tout, parce que les gens utilisaient le bois, en fait.
Eh oui.
Donc, c'était pas les mêmes paysages que dans lesquels ils sont aujourd'hui, nos moulins.
Ah ben pas du tout, hein, puisque maintenant on exploite le bois et ça a beaucoup poussé. Mais dans le temps, c'est sûr qu'il n'y avait pas de moulin. Et c'est bien aussi, on dit pour. Alors on parle pour les enfants, mais je pense que même pour certains adultes, ceux qui viennent de la
Oui.
ville, hein, les moulins, parfois, ça doit. Moulin, ils se rappellent peut-être de la chanson Moulin Tudor, mais ils connaissent pas. Hein, et finalement, de voir. Parce que c'était un sacré mécanisme, hein, en plus. Hein, c'était quand
Ah
même
ouais,
bien
c'est vrai.
pensé. Hein, bien pensé. Hein.
Ouais, mais complètement, ouais. Après, oui, quand je te disais ça plaît aux enfants, c'est parce que bon, voilà, souvent quand tu emmènes un peu les enfants visiter une église ou une collégiale, voilà, ils sautent au plafond. Un moulin, c'est sûr, c'est passionnant pour les adultes aussi, hein, bien sûr. Je suis tout à fait de ton avis. Mais en plus, ça plaît aux gamins.
Ah ben bien sûr, et puis c'est en mouvement, donc ça bouge. Hein. Alors, et puis c'est quelque chose que on touche tous les jours en fait, hein, puisque on leur fait voir la farine et avec la farine on fait le pain. Donc tous les jours on mange du
Bah
pain
oui.
pratiquement. Hein.
Tout à fait. C'était vraiment en fait vital aussi qu'il y ait des moulins.
Alors, pour revenir au pacte de Noara, notre Élodie, elle continue la destruction de cette famille Loubert. Ça va durer longtemps?
Ah bah il y a un moment où le cœur va l'arrêter. Voilà ce que je peux dire.
D'accord. Ouais, non, non, mais on va pas dévoiler la fin du roman. Mais ouais, peut-être qu'à force de vouloir détruire la famille. Elle a peut-être certains remords.
Disons qu'elle va retomber sur le plan qu'avait élaboré l'abbé de le roi pour la sauver. Tout est lié en fait. Tout est lié. C'est pour ça qu'elle va laisser une chance au dernier des Loubert. Elle leur laisse une chance à la fin parce qu'elle comprend ce qu'a fait l'abbé et que les choses changent en fait. On comprend qui est le cadavre, on comprend pourquoi, voilà, donc il y a un moment la vengeance s'arrête parce que la justice est faite en fait.
D'accord, oui, bon, et puis on sait bien que. Alors, on ne sait pas toujours, parce que des fois, dans ces querelles de village, hein, on peut dire, ben parfois, alors on le voit encore, hein, parce que c'est malheureux, on est au 21e siècle, mais il y a des familles qui ne se parlent pas, ils ne savent même pas pourquoi. Hein. Ben, ça fait.
C'est ça.
C'est incroyable, ça fait des années qu'il y avait eu un différend entre certains voisins, mais on ne se parle plus, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et
Ouais, c'est ça.
là, bon, ben là, elle sait pourquoi, hein, puisque si à la fin du roman on va la prendre, hein, elle sait pourquoi elle veut en arriver là, parce que c'est vrai que les Loubert n'ont pas été toujours très sympas avec elle et avec sa famille.
Oui, il faisait semblant, mais en fait, voilà, c'était l'idée, c'était de la détruire, de détruire la lignée Tixier, quoi. Voilà, et ça, heureusement qu'il y a eu l'abbé pour protéger Élodie et sa fille, quoi. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'on se dit que, parce que ça, c'est de la fiction, hein, mais ça existait aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des cas parfois de jalousie familiale ou de conflit qui amènent à un meurtre, hein. C'est pas nouveau, hein.
Ah non, c'est pas
Donc,
nouveau.
voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment où, bah, et comme tu dis, hein, ça arrive, ça, deux familles qui se détestent. Là, au début de mon roman, j'explique quand même que Tixier, c'est le dernier des Tixier parce qu'il a trois frangins, mais qui sont morts de façon un peu bizarre, quoi. On comprend bien que Des fois, ils allaient jusqu'à s'assassiner, quoi, pour voilà, pour faire du mal, pour tenter en fait de détruire l'autre lignée, quoi, l'autre famille.
Voilà, et bien c'est
pour ça que l'abbé, voilà.
Oui, a un rôle important, l'abbé Leroy, quand même, dans ce roman, on le comprend. Hein.
Ouais, vraiment, ouais.
Parce qu'en fait, c'est lui qui sait tout, et Élodie va le découvrir qu'après, mais c'est lui, au départ, et qui a fouillé un petit peu, et qui est vraiment... Alors, peut-être qu'il a pas voulu en parler avant, et si ses gamins avaient pas trouvé ce cadavre, peut-être que ça serait jamais su, quoi, on n'aurait jamais rien su.
Non, ouais, non, c'est vraiment parce qu'il y a ces trois petits garagnas, là, qui, voilà, qui disent... Et puis, en plus, bon, c'est... J'ai voulu jouer un petit peu là-dessus, mais ces trois gamins qui grandissent et puis ils continuent à venir là tous les étés à Amber, qui deviennent moniteurs et tout, ils continuent toutes les nuits quand même à faire le mur pour aller dans leur petite ferme, tout ça, et puis ils jouent aux cartes, ils boivent de l'alcool, enfin c'est... Voilà, c'est ces trois tempéraments, ces trois petits gamins qui deviennent après des gars moniteurs et tout. L'abbé les adore, mais l'abbé ignore qu'ils ont découvert un cadavre quand ils avaient 12 balais, quoi. Enfin, c'est ça qui est... Et j'ai bien aimé faire vivre ce trio comme ça de gamins un peu tête, quoi.
Ouais, alors tu sais que bah, finalement, on l'a tous été un jour ou l'autre. Hein. Moi, je dirais pour mon cas, moi je suis né dans la Loire, à Luriec. On était une bande de copains. Et on avait une maison qui était abandonnée, qu'on appelait la maison hantée. Et on y allait passer des moments comme ça, parce que c'était marrant. Hein. C'était une maison, on appelait ça la maison hantée, qui n'était pas du tout hantée, mais c'était marrant, on se réunissait là, et puis voilà. Donc c'est un peu ce qui explique ces trois enfants, là, ces trois gamins. Eux, ils ont leur lieu, comme ça, leur cachette, et ils fument, ils boivent des coups. Bon, ça, c'est chacun faisait ce qu'il voulait, hein, c'est sûr.
Ils jouent aux cartes. Enfin, bref, c'est leur...
Leur jardin secret, hein, on peut dire ça un peu.
Ouais,
voilà. D'accord. Bon, écoute, Florence, on a fait le tour du problème. Maintenant, il faudra lire le livre pour savoir la chute, hein, n'est-ce pas ? Il est sorti quand, d'ailleurs ? Parce que je viens de le recevoir, moi.
Il est sorti le 3 septembre, donc là, il doit être en librairie.
Ouais. Oui, mais je l'ai vu, il est en librairie, oui. Et il marche bien, comme tous les autres.
Écoute, ça attaque, hein, donc je pense que le fait que Michel les préfacé, ça va peut-être attirer quand même des lecteurs qui me lisaient peut-être pas forcément, mais qui aiment beaucoup Bussy, et qui du coup vont peut-être lire mon roman. Je sais pas si ce sera porteur, je pense quand même un petit peu.
Moi, je pense que dans la région, il va être porteur, parce que rien que le titre, le pack de Noira, ça parle à tout le monde, hein, dans le coin, là. Donc déjà, il y aura... je pense qu'il y aura une... comment dirais-je ? Il y aura une curiosité. Là, des fois, les romans, ils se passent à droite, à gauche. Mais là, vraiment, les gens qui connaissent pas, ils vont aller voir, je pense. Enfin, moi, c'est mon idée. Je pense que ça sera comme ça, non ?
Bon, je pense, ouais. Après, quand j'écris, c'est pas un calcul, si tu veux. J'ai pas calculé ça.
Non, mais je comprends bien que t'as pas calculé.
Non, comme
mais...
ça.
Oui, mais... Ouais. Oui, toi, mais moi, ça m'est venu tout de suite. Car j'ai Noira, je dis, ça m'a parlé tout de suite, Noira. Alors, je dois pas être le seul, hein, dans la région, puisque c'est connu, je te dis, en plus, avec tout ce qu'ils font. Maintenant, ils ont pris une place, hein, au niveau culturel. Bon, il y a un excellent hôtel, restaurant, tout, voilà. Bon.
Ah, c'est super,
Bah, écoute, vraiment. Florence, merci d'avoir été avec nous. Hein ? Et
merci
puis alors, ma dernière question traditionnelle, tu la connais par cœur, le prochain, il est sous le coude ?
Il est sous le coude, je suis en train d'y bosser dessus cet après-midi.
Ah, alors je t'ai dérangé.
J'y retourne.
Je t'ai pas coupé ton...
Non, petite récréation.
Et tu vas partir dans quoi là alors ? T'as déjà
alors cette fois-ci, ça va se passer à Saint-Julien-Chapteuil, dans mon village.
Ah, voilà. Chez toi.
Et je vais parler des réfugiés de guerre.
Ah d'accord, le plateau, oui, c'est vrai, là-haut, il y en a eu pas mal.
Mais à Saint-Julien, en fait, il y en a eu énormément. Mais alors des réfugiés, si tu veux, qui fuyaient la Belgique ou la France occupée des Français. Hein. Des Français, pas forcément des Juifs.
Oui.
Mais il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été accueillies à Saint-Julien, dans les fermes, dans les commerces. Ah, ils bossaient, ils rendaient des services, et puis parce qu'ils fuyaient les Allemands, l'occupation allemande.
Ouais.
En fait, j'ai découvert ça et je trouve que c'est un beau sujet. cette solidarité qu'il y a eu à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai, parce que autant on parle du Chambon-sur-Lignon, de Saint-Jean-Chapteuil, on en parle moins de ça. Hein.
Ouais, parce que le Chambon, ils ont vraiment sauvé des gens que les miliciens ou que les SS voulaient abattre, à savoir des juifs, notamment des enfants. Saint-Julien, c'est quand même là qu'ont vécu la famille de Serge Gasfeld, hein, Saint-Julien-Chapteuil, et Pierre Arditi. C'est une famille juive aussi. Hein, Pierre Arditi, l'acteur, il est né à Saint-Julien-Chapteuil. Donc, parmi le flot des réfugiés, tu vois, du Nord, il y avait quand même des juifs, parce que le maire de Saint-Julien à l'époque ne demandait absolument pas la religion. Et puis en fait, en Haute-Loire, on a eu un commandant allemand, mais qui ne faisait pas beaucoup de zèle. On n'a jamais eu de Gestapo, on n'a jamais eu de SS. Donc en fait, c'était assez connu, dans l'ombre, hein, qu'on pouvait quand même se rendre en Haute-Loire sans être ennuyé, tout en étant juif, tu vois.
Ouais, donc on était tranquille là de ce côté-là, et c'est pour ça qu'il y en a. Ben, ça sera intéressant. On va apprendre encore beaucoup de choses, toi. On en découvre tous les jours, hein, sur notre Haute-Loire. Eh bien, on l'attend. Donc, c'est pour l'année prochaine, celui-là, hein, je pense.
Et ouais.
D'accord.
Voilà. Sauf si je me fais écraser d'ici là. Mais
ah bon. Ben non, alors Florence. Ouais. Eh bien, écoute, Florence, merci d'être avec nous. On attend avec impatience ton nouveau roman pour une nouvelle découverte. Alors déjà, bon, c'est une découverte pour moi. Je ne savais pas qu'à Saint-Jean-Chapteuil, il y avait eu autant de réfugiés. Ben, on apprendra dans ton nouveau roman, après le Moulin de Noirat, ben, on verra ce qui s'est passé à Saint-Julien-Chapteuil. Merci d'avoir été avec nous, et puis bon après-midi et bonne soirée.
Merci à tous.
Salut, bonne Florence. Soirée. Au revoir.
Au revoir.
Voilà Florence Roche qui était avec nous et qui nous a parlé de son roman Le Pacte de Noirat aux presses de la Cité. Alors je pense que vous pouvez déjà le trouver chez nos amis Viviane et Marie-Pierre. Florence Roche, hein, qui chaque fois vend quand même beaucoup de bouquins. Hein. Je crois que chaque fois c'est de l'ordre de 10 000 ventes. Et là je pense que celui-là il va faire un tabac. Parce que ben, les gens de la région connaissent, on a beaucoup parlé de ce moulin de Noirat. Alors je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Et bien sûr, vous le retrouvez sur notre site. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci encore de votre fidélité.
Fancy gloves though, where's Maggie dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is there someone? Mac and I from a tugboat by the river, a cement bags drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear. After drawing out his cash, and Mac he'd spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown, all the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town,
take it, Satch.
has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone Mac the knife from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town.
Take it, Satch.
The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone Mac the knife from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. and Mac he'd spend like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard.